Nous reprenons versets 16, 17 et 18. Nous verrons après la suite. Du chapitre 1er, Jean chapitre 1er. Toutes nos études jusqu'ici ont porté en somme sur les 15 premiers versets. Nous avons vu quelle richesse de révélation, quelle puissance de révélation et quel matériau il y a là pour notre foi. Matériau dont notre foi ne peut pas se briser. Je vous ai dit, n'est-ce pas, la foi mal nourrie, la foi qui n'a pas saisi ce que Dieu met devant elle, lui propose, c'est une foi chétive, c'est une foi branlante. C'est pourquoi il est urgent, nécessaire, que nous pénétrions ces richesses. Versets 16, 17 et 18. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Lorsque Jean dit « Nous avons tous reçu », que veut-il dire ? Eh bien, il vise là l'Église, corps de Christ, tous. Lorsque l'apôtre Paul va s'exprimer dans les Corinthiens et dans les Thessaloniciens aussi, sur ce mode, tous, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. D'aucuns en ont tiré argument pour détruire le fait individuel du baptême de l'esprit. Mais c'est là, n'est-ce pas, un mauvais travail. Nous avons tous, c'est l'Église, corps de Christ. C'est le vœu de Dieu pour son Église. Donc, pour l'Église, n'est-ce pas, eh bien, il y a réception de plénitude et grâce pour grâce. On pourrait dire qu'il n'y a pas de meilleure définition laconique de la volonté de Dieu pour l'Église, corps de Christ, que cela. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous allons voir ce qu'est cette plénitude. Nous lirons dans les Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, il, c'est le Père, et celui dont il est question, c'est le Fils. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en lui. Voilà encore, n'est-ce pas, une justification de ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, voyez que quand il s'agit de plénitude, eh bien, il s'agit de Christ et il s'agit de son corps, l'Église. L'Église, corps de Christ. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, et son corps, qu'est-ce que c'est que son corps, qu'est-ce que c'est que cette Église, corps de Christ, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Parce que, attention, il s'agit de l'Église corps de Christ. Il ne s'agit pas de l'Église répondant à une autre conception. Il ne s'agit pas de l'Église même locale, dans laquelle il peut y avoir des gens qui n'appartiennent pas au corps de Christ. Il s'agit de ceux qui sont groupés, établis dans le corps de Christ. Puissiez-vous y être tous, mes amis, tous, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Nous lirons dans la même épître aux Éphésiens, chapitre 3 et verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut tout faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, amen. Dans l'Église et en Jésus-Christ, on ne s'occupe pas de ce qui n'est pas dans l'Église, de ce qui ne forme pas le corps de Christ. Tout ce qui est religion, tout ce qui est christianisme appauvri, dévié, christianisme frelaté, tout cela n'a aucune importance, ou christianisme formaliste, christianisme qui est sorti de ses bases, sorti de son fondement, ça n'a rien à voir, c'est pas à cela qu'on parle. C'est à l'Église, vrai, corps de Christ. Eh bien, donc, il y a la plénitude. Il n'y a pas bien longtemps, quelques mois seulement, un frère, nous parlions de plénitude, et un frère, membre d'Église, me disait, « Oh ben la plénitude, c'est la plénitude du Saint-Esprit. » Et je lui ai dit, « Mon ami, est-ce que vous avez bien réfléchi, médité à vos rêves ?»« Ben, plénitude. Bon, »« Plénitude, c'est plénitude, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une, la plénitude de l'Esprit. » Chers amis, cela montre l'insuffisance de connaissance, la grave insuffisance de connaissance, et puis alors, cette déviation, je dis bien, chers amis, nous sommes dans les assemblées de Dieu, dans le milieu de Pentecôte, cette déviation sur la doctrine de la plénitude du Saint-Esprit. Mais c'est affligeant aujourd'hui. C'est quelque chose d'affligeant que l'on ne sache pas comprendre ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et puis que l'on se serve de ça si mal qu'on le fait maintenant. La plénitude du Saint-Esprit, c'est une chose. C'est le Saint-Esprit qui vient occuper tout l'espace libre, chacun selon sa capacité. Il vient occuper l'espace. Il apporte ce qu'il faut qu'il apporte, c'est-à-dire la puissance, afin que vous soyez des témoins. Il donne des qualifications, voilà ce que fait l'Esprit. Mais les qualifications, les dons, la puissance, l'autorité qui viennent de la plénitude de l'Esprit, sont des voies, des moyens, tandis que la plénitude de Dieu, c'est un résultat, c'est un état à obtenir, c'est tout autre chose. Ce n'est pas la même chose, la plénitude de Dieu. Il faudrait que ceux qui reçoivent la plénitude du Saint-Esprit soient très vite entrés dans la plénitude de Dieu. Cela serait souhaitable. Il le faut. Nous avons vu l'autre jour, n'est-ce pas, que deux choses importent, la foi et le témoignage. Tout est témoignage, et la foi est le moyen d'aller au témoignage et de fournir le témoignage. Mais, chers amis, la plénitude de Dieu, c'est le summum de tout. Et quand, n'est-ce pas, il est question de gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui devraient donc être remplis du Saint-Esprit, mais qui ne voient pas du tout à quoi cette plénitude doit leur servir, à part peut-être l'exercice d'un don, n'est-ce pas, de quelques dons vocaux, généralement, je dis vocal parce qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui sont tout aussi estimables, eh bien, alors, n'est-ce pas, s'il ne voit rien, s'il ne voit cela, et si sa vie ne fait pas progrès, c'est bien qu'au départ, il peut avoir énormément de progrès à faire, énormément de choses à apprendre. La plénitude du Saint-Esprit n'apporte pas la science infuse. La connaissance doit rentrer avec, mais elle rentrera d'autant mieux par la suite que l'Esprit sera là, à l'œuvre, dans toute son autorité et sa puissance. Mais l'Esprit, je le répète, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas la science infuse, la connaissance infuse. Il n'est pas la sanctification infuse non plus. N'est-ce pas? La sanctification, c'est une marche. C'est une marche dans la lumière. C'est une marche ascendante. C'est une marche dans le progrès, dans la perfection. Le perfectionnement des saints. C'est cela. Et la plénitude du Saint-Esprit sert à cela. Mais quand la plénitude du Saint-Esprit n'est pas utilisée à cela, eh bien, je dis, cette plénitude-là, je la mets en doute. Ou si elle a été reçue à un moment, elle a disparu. Elle n'est plus. Et il n'y a pas accès à la plénitude de Dieu. Et ça, c'est une chose grave. Or, qu'est-ce qui est donné à l'Église? Il ne s'agit pas ici des moyens, des voies. Il s'agit de la grande dotation de Dieu. C'est la plénitude et grâce pour grâce. Voilà ce que Dieu veut à l'Église, corps de Christ, la plénitude de Dieu et grâce pour grâce. Alors, interrogeons-nous sur le point de savoir ce qu'est la plénitude. Eh bien, d'abord le mot, que signale le mot dans le langage biblique. Il faut s'assurer des termes que l'on emploie, n'est-ce pas? Eh bien, plénitude, c'est l'idée de ce qui est entier, de ce qui est complet, et même de ce qui est abondant. N'oublions pas qu'avec Dieu, il y a toujours cette idée d'abondance, je vous l'ai signalé hier, toujours, ce désir d'abondance. Là où Dieu est obéi, il y a l'abondance. Dieu veut l'abondance. C'est sa volonté. N'est-ce pas? Alors, la plénitude, c'est donc ce qui est entier, c'est ce qui est complet, et c'est même ce qui est abondant. Et qu'est-elle exactement cette plénitude? Peut-on en dire quelque chose d'après la connaissance que la Bible nous en donne? Eh bien, nous pouvons dire qu'elle est une possession, la plénitude. Une possession, non pas de la puissance seule, mais une possession de la divinité. Une possession de la divinité et essentiellement des dons, une possession des dons qui ne sont pas alors les dons de l'esprit à proprement parler, les dons spirituels, mais une possession des grands dons qui sont au nombre de 5 et que le Seigneur a destiné à l'Église corps de Christ. Et ces 5 dons sont esprit, amour, vérité, vie et héritage. Et ces 5 dons, n'est-ce pas, l'amour est donné, il est versé dans les cœurs par le Saint-Esprit, l'Esprit est donné aussi, il est donné d'abord en, si je puis dire, en qualité puis en quantité, enfin, la plénitude du Saint-Esprit étant essentiellement l'Esprit en puissance, c'est-à-dire, si vous voulez, en quantité. L'Esprit est donné, l'amour est versé dans les cœurs, la vérité, elle est révélée au cœur. C'est un don qui vient, nous allons le voir, un don qui vient avec Jésus-Christ. La vie, c'est le don de la vie éternelle, c'est un don, et c'est pas un des moindres. Et l'héritage est une chose nécessaire, il ne se peut ni corrompre ni souiller, et c'est une chose qui est donnée par Dieu, co-héritier avec Christ, n'est pas un héritage qui est fait seulement de biens à posséder, n'est-ce pas? Mais un héritage qui est fait aussi de gloire. C'est un héritage qui est fait de gloire. Voilà les cinq grandes dotations. Les cinq grandes dotations faites à l'Église. L'esprit, l'amour, la vérité, la vie et l'héritage. Et celui qui a tout cela, celui qui possède tout cela en abondance, il a la plénitude. Il a la plénitude. Si je connaissais, si j'avais une grande connaissance, mais qu'il me manque l'amour, je ne ferais rien. Si j'avais la foi jusqu'à transporter des montagnes, dit l'apôtre Paul, et qu'il me manquât l'amour, je ne ferais rien. Si j'avais les dons spirituels les plus évidents et les plus remarquables, si je parlais toutes les langues, si je prophétisais que je n'ai pas l'amour, je serais un airain qui résonne. Voyez, je peux avoir les dons sans avoir la plénitude de Dieu. Alors, dans la Pentecôte, mes amis, il faut que nous redressions cela. Nous n'allons pas tout de même fléchir, tout de même tomber dans l'hérésie parce que nous avons été, n'est-ce pas, ce mouvement qui a ramené la conscience sur des choses qui avaient été perdues et oubliées, telles que le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels, et c'est pas parce que nous avons ramené ça que nous allons alors tout mettre là et puis oublier le reste. Oublier le principal, parce que ce n'est pas le principal. Le principal, c'est cela. La plénitude de Dieu est grâce pour grâce. Le principal, c'est d'avoir tout. Si je n'ai pas l'amour, eh bien je peux avoir tout le reste, ce n'est rien. Il faut avoir ensemble ces cinq grandes dotations qui constituent la plénitude de Dieu. Je voudrais encore dire de la plénitude de Dieu qu'elle est un équilibre. Et que celui qui n'a pas d'équilibre dans son comportement, dans ses paroles, dans sa vie, dénote par là même qu'il n'a pas la plénitude. Celui qui a la plénitude a l'équilibre, il est comme Christ, il a l'équilibre. Enfin, alors attention mes amis, le flot de paroles, les paroles qui sont plus ou moins hors de propos, et toutes sortes de comportements, n'est-ce pas, des excès. Tout cela peut montrer, dénoter qu'il n'y a point la plénitude de Dieu. Alors, la plénitude de Dieu confère un équilibre, elle est un équilibre. Elle est, peut-on dire, cette plénitude de Dieu, un ensemble de fonctions parfaites et parfaitement ajustées les unes aux autres. Je vais le justifier, je vous donne une définition, mais je vais la justifier. Je répète donc que la plénitude est un ensemble de fonctions parfaites et parfaitement ajustées les unes aux autres. Il y a équilibre, n'est-ce pas? Et toutes ces fonctions travaillent, concourent à un même résultat, ce résultat étant l'imitation de Jésus-Christ. La vie conforme à la vie de Jésus-Christ. Voilà le résultat. Et je vais justifier dans les Éphésiens, chapitre 4 et verset 16. Oh, je dois même lire, le verset 15. Commençons verset 15 pour ne pas en lire trop. Nous y reviendrons sur ces textes. Mais que professant la vérité dans la charité, voyez, professant la vérité dans l'amour, c'est l'amour, charité dans le sens d'amour, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions, nous grandissions à tous égards, chers amis, à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. Alors, attention, c'est de lui, de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps de l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà une belle image de l'Église corps de Christ. Il n'y a pas un assemblage qui tire, une corde qui tire plus qu'une autre. Tout est tiré selon la force qui convient à chacune de ses parties. Mais c'est de Christ que viennent tous ces liens, n'est-ce pas tout cela? Et les fonctions qu'il y a là dans le corps sont bien coordonnées, elles forment un solide assemblage. Il y a une structure organique, comme nous la voyons. Je vous en ai parlé à propos de la Genèse, comme nous la voyons dans les espèces vivantes. Il y a une structure qui est déterminée par Dieu, et c'est cette structure-là, ici, d'ordre spirituel, qu'il faut absolument atteindre, et celui qui atteint à cela atteint la plénitude de Dieu. Ainsi, Christ vient apporter à l'Église une chose qui n'existait pas auparavant, une plénitude, la plénitude de Dieu, qui nous est indispensable et qui est le but de notre vie actuelle, de notre pèlerinage. Et grâce pour grâce, et nous avons tous reçu, l'Église donc doit avoir reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Il y en a qui ont traduit « et grâce sur grâce », une grâce qui s'ajoute à d'autres grâces. Ce n'est pas tout à fait l'idée du texte. La traduction ici est tout à fait correcte, « grâce pour grâce ». L'idée est différente de « grâce sur grâce ». Grâce sur grâce, ça voudrait signifier qu'à une grâce obtenue, une autre va venir, et encore une autre, et ceci. Il y a un peu de cela, mais il est plus correct de rester près du texte. Vous voyez, quelquefois, n'est-ce pas, la signification littérale du texte doit être prise à référence. Eh bien, la signification littérale du texte est grâce pour grâce, et je vais vous expliquer cela. Actuellement, c'est le régime nouveau de la grâce. Pour l'Église, c'est le régime nouveau, un régime nouveau qui est celui de la grâce, qui s'est ouvert avec Jésus-Christ. Et dans ce régime, qui n'est plus celui de la loi, nous allons en parler dans le verset 17, ce régime qui n'est plus celui de la loi est celui de la grâce. Il y a d'abord la grâce du salut, la grâce du pardon, bien sûr, mais il y a quantité de grâces les plus variées, dit l'apôtre Paul. Il y en a des grâces, n'est-ce pas ? La grâce étant une communication d'un don de Dieu, c'est un don de Dieu, la grâce, n'est-ce pas ? C'est quelque chose, une concession, si vous voulez, de Dieu. Le mot est peut-être pas très vrai, j'en cherche un autre. La grâce étant, non pas une faveur non plus, ce serait diminuer la chose. La grâce, c'est quelque chose que Dieu donne, qui est nécessaire, quelque chose qu'il donne, quelque chose qu'il fait ou donne lui-même. Eh bien, dans ce régime de la grâce, celui de l'Église, celui qui recevra la grâce en recevra d'autres, et il en recevra d'autres, il en recevra toujours, et ce ne sera jamais fini. Les grâces seront comme une pluie, mais ça, cela pourrait justifier la traduction grâce sur grâce, grâce qui s'ajoute à d'autres grâces, oui, mais grâce pour grâce veut dire exactement ceci. C'est que celui qui reçoit la grâce, qui en reçoit beaucoup parce que sa foi est grande, vous savez que la grâce est appelée par la foi, eh bien il en reçoit beaucoup, plus il en reçoit, plus il en aura. Voilà l'idée qui est dans le texte. Autrement dit, on rejoint cette proclamation du Seigneur Jésus-Christ par ailleurs. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà ce que veut dire grâce pour grâce. C'est donc là une invitation à posséder déjà beaucoup, pour avoir encore plus, n'est-ce pas? Parce que on donne à celui qui a, mais on ne donne pas à celui qui n'a pas. Donc les grâces ne s'ajoutent, ne viennent se superposer que s'il y en a déjà beaucoup, si l'on, par la foi, on en saisit beaucoup, alors là, n'est-ce pas, les grâces reçues appellent des grâces, d'autres grâces encore, et en abondance. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. C'est dans Matthieu 13, 12, notamment. Et ce que je viens de vous dire est corroboré par le verset suivant. Le verset suivant, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Le régime de la loi. Ah, il faut comprendre cela. Et nous aurons, dans le cours de cette retraite, l'occasion de traiter, peut-être... traiter tout de même avec assez de précision cette grande question de la loi et de la grâce. Voilà encore une connaissance qui fait défaut bien souvent et qui a, par son absence, le grave inconvénient de ramener dans l'Église le légalisme. Le légalisme qui opère alors des coupes sombres et qui est capable de démanteler une église en rien de temps. Alors, ça, c'est faute de comprendre la grâce. Et souvent, on va se saisir d'une petite indication de Paul, les cheveux coupés, par exemple, ou des choses comme ça, n'est-ce pas ? On va se saisir d'une indication de Paul, parce qu'alors, on va refaire un système légaliste. Et puis, dans ce système légaliste, on va naturellement mettre un grand sabre et on va sabrer ceux qui ne nous paraissent pas avoir obéi à cela. Affreux ! C'est une destruction de l'Église. Ça ne veut pas dire que la parole de Paul ne doit pas prendre sa place dans l'accomplissement, mais pas de cette manière-là. La loi, donc, a été donnée par Moïse. Le régime de la loi, qui était nécessaire en son temps, fait place au moment où nous sommes situés par le récit de Jean. Alors là, le régime de la loi fait place, avec la venue de Jésus-Christ, au régime de la grâce, qui est le régime de la gratuité. Autrefois, sous la loi, n'est-ce pas, il était dit, fais cela. Accomplis la loi formulée, la loi écrite sur des tables de pierre, la loi écrite dans un livre, fais cela et tu vivras. Hein? Accomplis cette œuvre et moyennant cela, eh bien tu auras cela. Ce n'était pas gratuit. Tandis qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, avec la grâce, c'est le régime de la gratuité. C'est gratuitement que vous avez été sauvés, ça ne veut pas dire sans argent, sans or, comme nous le chantons, n'est-ce pas ? Ça veut dire sans qu'il vous ait été demandé auparavant les œuvres d'obéissance à la loi. On ne vous les avait pas demandées avant et on vous a fait pardon gratuitement. C'est cela que ça veut dire. Bien sûr, l'argent, bon, c'est évident qu'on ne fait pas payer le salut, mais il y a une idée bien plus riche dans cette notion de gratuité. Gratuité, alors c'est le régime de la grâce par la foi. La grâce qui est accompagnée de la vérité, comme nous le voyons dans le verset 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus, je vais en parler. Le régime de la loi, c'était aussi le régime, le temps des images et des ombres, n'est-ce pas, les ombres des choses à venir, les représentations qui étaient l'objet des commandements, surtout de la partie cérémonielle de la loi, n'est-ce pas ? Là, c'était les images et ombres des réalités à venir, comme l'Épître aux Hébreux nous l'apprend. Eh bien, ce temps a pris fin, et c'est celui des réalités, des grandes réalités qui s'ouvrent, si bien que la vérité sera amenée nécessairement avec la grâce. La loi ordonne, elle condamne la transgression, et l'apôtre Paul n'hésite pas à dire c'est le ministère de la mort. C'est un ministère glorieux parce qu'il était nécessaire, mais un ministère de la mort, ministère de la condamnation. Tandis que la grâce, qui est l'essence même de l'évangile, personne n'a compris l'évangile s'il n'a pas compris la grâce. Et de l'évangile, alors vous faites une affreuse caricature si vous y introduisiez à nouveau le légalisme. Eh bien, donc, la grâce, essence de l'évangile, offre, et elle donne gratuitement le salut, et qui, lorsqu'il est obtenu, devient le principe des œuvres. Voilà ce qui n'est pas suffisamment compris et reçu dans Éphésiens chapitre 2, verset 9 et 10, nous lisons « Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, n'est-ce pas ? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, textuellement, afin que nous marchions dedans. » Eh bien, donc, ces bonnes œuvres sont le produit, autrement dit, la bonne conduite, la conduite dont parle Pierre, ce comportement, cette vie sanctifiée, ça, c'est le produit de la grâce reçue. Et ça ne précède pas, ça suit. C'est donc c'est ce comportement, cette sanctification nécessaire, indispensable, nous le disons assez, du chrétien, cette sanctification est un fruit, un produit de la grâce en lui. C'est pourquoi elle vient du Seigneur, que le Seigneur vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps, et c'est lui qui le fera, dit l'apôtre Paul. Cette sanctification doit être donc l'œuvre de la grâce, mais c'est une œuvre de l'esprit, c'est le Seigneur, c'est l'esprit, tandis qu'autrefois, chez les Juifs, du temps de la loi, c'était la chair qui était soumise à cette loi. Et c'était la chair. Si nous voulions faire les œuvres sans avoir reçu la grâce, c'est la chair qui les accomplirait, ce ne serait pas l'esprit. Dieu s'est alors révélé, avec la grâce et la vérité qui sont venues en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé comme le Dieu amour. Il n'est plus le justifié. Il n'est plus ce juge terrible, ce feu dévorant. Le pardon étant donné, c'est alors la grâce qui va entraîner avec elle la révélation de Dieu, la vérité. Et cette vérité, qu'est-elle ? La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Qu'est-elle cette vérité ? Eh bien, mettons les points sur les i. Cette vérité est trois choses essentielles. Elle est la connaissance de Dieu, elle est la connaissance de sa volonté par révélation, révélation, je dirais, publique dans les Écritures, révélation personnelle dans le cœur du chrétien, connaissance de Dieu, connaissance de sa volonté, et puis marche dans la vie de lumière. Parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de marche. Alors là, n'est-ce pas, la connaissance serait quelque chose qui serait atrophié, qui serait dévié, qui ne serait pas bien placé. Si la connaissance n'entraîne pas la marche, il n'y a pas de vérité. Ce même apôtre Jean qui écrit cet évangile dira dans sa seconde et troisième épître, « Je me réjouis de ce que la vérité soit en vous et de ce que vous marchiez dans la vérité. » Vous marchez dedans. La vérité, c'est une chose qui se vit, n'est-ce pas ? Et la vérité dogmatique n'est-ce pas, pour elle-même, c'est une folie, c'est une tare. C'est une tare. La doctrine, pour la doctrine, c'est une tare. Mais il faut la connaissance, la doctrine, connaissance de la doctrine, c'est la connaissance de la volonté de Dieu, et la connaissance des révélations de Dieu, la connaissance de Dieu aussi pour une part, eh bien tout cela c'est utile à condition qu'il y ait la marche dans la lumière. Et tout cela est venu par Jésus-Christ. Tout cela dépend de la foi, tout cela dépend de la grâce, et le résultat c'est la vérité, la vie, et devant nous l'espérance avec l'héritage. Et je vous l'ai dit, n'est-ce pas, ces cinq choses, esprit, amour, vérité, vie, héritage. Voilà les choses qui nous viennent de Dieu, les grandes réalités. Dans le verset 18, il nous a été dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Ceci confirme que la grâce et la vérité venues par Jésus-Christ sont la suppression de la séparation due au péché. Le péché opérait une séparation entre l'homme et Dieu, le ciel était fermé, n'est-ce pas, une séparation, votre péché vous sépare de Dieu, eh bien, cette séparation est maintenant chose révolue, et à la place de cette séparation, qu'y a-t-il, cette grandiose inouïe, une connaissance intime de Dieu, une communion avec Dieu. C'est plus la séparation, c'est la vie de communion. La connaissance de Dieu n'est donc pas à la discrétion des moyens naturels de l'homme, de la raison de l'homme, des efforts de l'homme. La connaissance de Dieu n'est pas le résultat de l'action de ces moyens-là, n'est-ce pas ? Mais elle est, cette connaissance de Dieu, une révélation apportée par Jésus-Christ et rendue possible et actuelle dans l'Église avec le régime nouveau que Christ ouvre. C'est ce que veut dire notre texte. Personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais eu connaissance de Dieu. Je ne veux pas écarter une question de vue physique par des yeux qui seront autres que les nôtres, je ne l'écarte pas, mais il s'agit de l'Église ici, par conséquent, il ne s'agit pas donc de vue physique, il s'agit de voir Dieu dans le sens où Jean, ce même apôtre Jean, emploie le terme qui se retrouve dans sa première épître au chapitre 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voir. Et Jean emploie encore le mot voir autrement. Celui qui croit en moi, celui qui croit dans le Fils de Dieu et qui voit le Fils de Dieu à la vie éternelle. Vous voyez, Jean donc emploie particulièrement un terme grec qui correspond, qui est traduit par le verbe français voir, n'est-ce pas, et qui veut dire essentiellement connaissance intime. C'est dans Jean 5, Jean 5, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. C'est-à-dire, quiconque, n'est-ce pas, par la foi, parvient au Fils et parvient à l'intimité avec le Fils, n'est-ce pas, la vie éternelle fait qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui qui a envoyé Jésus-Christ, qui parvient à cette connaissance que l'apôtre appelle une vue. La connaissance de Dieu, donc, ne peut être apportée que par la révélation de Jésus-Christ et elle appartient au régime de l'Église. Auparavant, aucune pareille connaissance de Dieu n'était possible. Personne n'a vu Dieu, pas même Moïse de face. Il l'a vu par derrière, mais non de face. Et c'est Jésus-Christ qui le fait connaître. Pourquoi Jésus peut-il vraiment faire connaître le Père? Eh bien, cela nous est dit dans notre verset, parce qu'il est dans le sein du Père. Il n'est pas dit parce qu'il a été dans le sein du Père, mais parce qu'il est dans le sein du Père, il est de même essence que le Père, il participe au conseil du Père, il est parfaitement un avec le Père, et c'est cela qui fait qu'il peut nous faire connaître le Père. Là, alors, n'est-ce pas, nous nous reportons à la prière sacerdotale, chapitre 17, où tout cela s'explique bien, verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, il est dans le sein du Père, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé, que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, n'est-ce pas? Moi en eux, et toi en moi, alors c'est comme ça que le Père peut être donné, peut venir, si vous voulez, réaliser lui-même cette communion à travers le Fils, par le moyen du Fils, parce que le Fils est un avec le Père. Toi en moi, moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Donc, Christ venant dans le cœur de son disciple, apporte nécessairement la présence du Père. Et dans un passage de ce même évangile, il est dit aussi, « Celui qui m'aimera, mon Père l'aimera, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons, le Père et moi, nous viendrons. » Alors, voilà comment se justifie ici ce verset 18. « Personne n'a jamais eu connaissance de Dieu comme cela sera maintenant » dans la dispensation de l'Église, personne, ce n'est pas possible, mais le Fils unique, qui est dans le sein du Père, qui est toujours un avec le Père, qui est dans le Père est en moi et je suis dans le Père, eh bien alors c'est lui qui peut le faire connaître et qui le fait connaître, qui donne communion avec le Père.